VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir, Eric Manilakiza, en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Ravi d'être avec vous et bienvenue dans cette édition de 18h30 temps universel. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui du vendredi 6 octobre 2017. D'abord les principaux titres. Le prix Nobel de la paix décerné à la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Deuil national au Niger après l'attaque meurtrière contre des militaires nigériens et américains. Des militants de Lucha ont retrouvé leur liberté après quelques jours de détention dans l'est de la RDC.
Le chef du parquet a estimé qu'il n'y avait pas de sanctions.
Nous aurons le témoignage de Ghislain Mouhioua. Vaste opération de contrôle à Bangui.
Il est de notre devoir de savoir qui est sur le territoire et au besoin, il faut se confirmer à la législation sud-africaine.
Oui, Freeman Sipila vous dira pourquoi. Retrouvez Yacouba Ouedraogo pour votre page d'espoir et Nathalie Barge pour l'actualité économique, juste après le journal. Je vous le disais dans les titres, deuil national de 3 jours au Niger à compter d'aujourd'hui. Cela fait suite au décès mercredi de 4 soldats nigériens et 3 autres américains dont la patrouille était tombée dans une embuscade tendue par des hommes armés à la frontière avec le Mali. Une attaque pas encore revendiquée, comme vous le précise Abdelrazak Idrissa.
Le communiqué qui annonce le deuil national de 3 jours décrété par le gouvernement après cette attaque a été lu tard dans la nuit par la ministre de la Communication, Sani Koubra Abdoulaye, à la télévision publique.
En cette circonstance douloureuse, le gouvernement réitère ses condoléances les plus attestées aux familles des victimes et décrète un deuil de 3 jours.
Un peu avant, c'est le porte-parole du ministère de la Défense nationale qui donnait le bilan officiel toujours sur les antennes de Télé-Sahel.
Après d'intenses combats au cours desquels les éléments de la patrouille conjointe ont fait montre d'un courage et d'une combativité exemplaires, le bilan s'établit comme suit. FDS, 4 morts, 8 blessés. Partenaires américains, 3 morts, 2 blessés.
Le gouvernement nigérien s'est dit consterné par cette attaque qualifiée de terroriste jeudi matin par le président Issoufou Mahamadou qui a encouragé les forces de défense et de sécurité dans le combat qu'elles mènent contre le terrorisme et salué l'engagement des partenaires américains aux côtés du Niger dans cette lutte. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Et nous reviendrons en partie magazine sur la présence de l'armée américaine au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé aux parties maliennes des avancées significatives dans l'application de l'accord de paix de 2015. C'était dans un message ferme peu après l'évocation par Bamako de progrès remarquables à ce sujet. En RDC, 3 miliciens présumés ont été tués de casquets bleus légèrement blessés dans l'est du pays lors de l'attaque d'une base de la mission de l'ONU au Congo, la MONUSCO, située près de Rubero, centre. Dans ce territoire au nord de Goma, dans le nord Kivu, des groupes armés congolais et étrangers contrôlent plusieurs villages et s'y affrontent depuis plus de 20 ans. Les précisions de Jacques Aristide.
L'attaque a été menée aux petites heures du matin par un groupe d'hommes armés contre ce camp de la MONUSCO près de Lubero Centre. D'après le général de division Bernard Comins, chef adjoint des casques bleus en RDC, les assaillants étaient probablement des Maï-Maï. L'administrateur du territoire de Lubero, Jobo Kélé, qui se trouvait sur les lieux, a confirmé l'attaque et le bilan tel que donné par la MONUSCO. Le territoire de Lubero est situé à 300 km au nord de Goma, dans la province du Nord Kivu, où des groupes armés congolais et étrangers contrôlent plusieurs villages et s'y affrontent depuis plus de 20 ans. Depuis le début de l'année, des miliciens attaquent régulièrement les positions de l'armée congolaise dans le Nord Kivu et dans la province voisine du Sud Kivu, où des casques bleus ont été rapidement déployés le 28 septembre à Uvira après une attaque. Les Maï-Maï sont des groupes d'autodéfense constitués sur une base essentiellement ethnique. Pendant la deuxième guerre du Congo, nombre de ces groupes ont été armés par le pouvoir pour lutter contre des combattants ougandais et rwandais. Certains n'ont jamais désarmé.
Les évêques catholiques des régions anglophones du Cameroun ont dénoncé la barbarie et l'usage irresponsable des armes à feu pour réprimer des civils. C'était dimanche dernier, lors des manifestations visant à proclamer symboliquement l'indépendance de ces régions. Des responsables militaires et politiques nigériens ont plaidé pour une plus grande coopération internationale en vue de vaincre et neutraliser la menace Boko Haram dans la région du Tchad. Pour le chef d'état-major des armées, un effort collectif est désormais nécessaire pour contrer les tactiques de guérilla du groupe djihadiste. Le président nigérien Muhammadu Buhari est éclaboussé par un scandale visant l'un de ses proches. Une lettre du secrétaire d'État au pétrole dénonce des malversations au sein de la compagnie pétrolière d'État. Ce document dresse une liste de 5 contrats d'une valeur de 25 milliards de dollars signés sans aucune connaissance ni approbation du conseil d'administration de la Nigerian National Petroleum Corporation. Cette compagnie pétrolière nationale est historiquement réputée pour être la caisse noire de tous les gouvernements démocratiques ou militaires qui se sont succédés à la tête du pays. Au Kenya, environ 3000 manifestants mobilisés pour protester contre la commission électorale ont été dispersés à l'aide de gaz lacrymogène aujourd'hui à Kisumu, dans l'ouest du pays. Les États-Unis ont fait part de leurs préoccupations face à cette situation. Les précisions avec Anastasie Tudiech.
Kisumu est un bastion de l'opposition. Tentant de s'approcher des bureaux de la commission électorale de la troisième ville du pays, située sur les rives du lac Victoria, les manifestants ont été dispersés par la police à l'aide de gaz lacrymogène et de tirs de semonces. La foule réclamait notamment le départ du directeur exécutif de la commission électorale, Ezra Chiloba. Quelques dizaines de manifestants ont profité de la confusion pour piller et incendier un supermarché, entraînant de nouvelles confrontations avec les forces de l'ordre. Les États-Unis ont fait part de leur profonde inquiétude face à l'aggravation du climat politique au Kenya, renvoyant dos à dos gouvernement et opposition. Malheureusement, les acteurs de tous les bords ont sapé ces dernières semaines l'autorité de la commission électorale et alimenté les tensions, a affirmé Heather Nauer, porte-parole du département d'État américain. Et Mme Nauer d'ajouter, les dirigeants et citoyens kényans doivent rejeter la violence et les forces de sécurité devraient utiliser la plus grande retenue dans la gestion des manifestations.
Au Zimbabwe, la guerre pour la succession du président Robert Mugabe a repris de plus belle. Une passe d'armes au sommet oppose le vice-président Emmerson Mnangagwa à la première dame Grace Mugabe autour d'une mystérieuse rumeur d'empoisonnement. En Tunisie, les premières élections municipales de la pré-révolution de 2011 ont été fixées au 25 mars. Elles étaient initialement prévues pour décembre, puis reportées à la demande de partis politiques.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le prix Nobel de la paix 2017, décerné à la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, et ICAN en cycle. La décision, saluée par plusieurs dirigeants à travers le monde, intervient au moment où le président américain Donald Trump pourrait renoncer à l'accord iranien sur le nucléaire. Abdulrahman Diab.
La directrice de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires s'est dite honorée. Beatrice Finn a lancé un appel aux nations pour qu'elles interdisent maintenant l'arme atomique. C'est un moment de grande tension dans le monde, alors que les déclarations enflammées pourraient tous nous conduire très facilement vers une horreur sans nom. Le spectre d'un conflit nucléaire plane à nouveau, a-t-elle dit dans un communiqué. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a aussi salué l'attribution du prix Nobel de la paix à la campagne antinucléaire avec laquelle l'Union européenne partage l'objectif d'un monde débarrassé des armes nucléaires. Le 21 septembre, Mme Mogherini avait jugé qu'il n'était pas nécessaire de renégocier l'accord sur le nucléaire iranien lors d'une réunion des ministres des pays signataires, Iran, États-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne. Un avis qu'est loin de partager le président américain Donald Trump, qui est également engagé dans un bras de fer avec Pyongyang sur le programme nucléaire nord-coréen.
Effectivement, Abdou, Donald Trump pourrait ne pas certifier cet accord, il devrait l'annoncer. la semaine prochaine. Le gouvernement espagnol a appelé des séparatistes catalans à dissoudre leur parlement et à convoquer des élections dans la région. Objectif, surmonter la crise entre Madrid et Barcelone qui menace de déclarer l'indépendance unilatéralement. En France, trois personnes vont être présentées à un juge pour leur inculpation. Trois autres ont été relâchées dans l'enquête ouverte après la découverte de bonbonnes de gaz et d'un dispositif de mise à feu dans un quartier cossu de Paris. Des experts du Conseil de l'Europe ont dénoncé un décret-loi d'urgence promulgué en Turquie après le putsch avorté de juillet 2016. Ankara l'a utilisé pour évincer des élus locaux jugés proches du parti séparatiste kurde PKK. Au moins 16 morts dans une collision entre un train et un car à une centaine de kilomètres à l'est de Moscou. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique avec Nathalie Barche.
Lors de la réunion biannuelle des membres de la zone franc à Paris jeudi, les ministres des Finances se sont engagés à mobiliser plus de recettes fiscales pour faire face aux difficultés économiques. La question de la sortie du franc CFA n'a été que superficiellement abordée. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a évoqué la question à l'issue de la rencontre, disant qu'il appartenait aux pays africains d'en décider. Tenu à Bruxelles ce vendredi de la quatrième édition du Rebranding Africa sur le thème « Enjeux et défis des systèmes financiers africains face aux dividendes démographiques ». Ce forum comprend une session spéciale dédiée à l'innovation avec présentation de projets réalisés par des jeunes Africains. La journée se terminera par la cérémonie de remise des prix. Nommé par l'Union des banques arabes comme meilleur gouverneur de banque centrale, l'Égyptien Tarek Amer recevra son prix à Beyrouth le 23 novembre. Global Markets, le journal des institutions de Bretton Woods, lui a décerné le même titre en août dernier. La cérémonie de réception de ce prix est prévue à Washington le 14 octobre.
Et c'est votre page sportive avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Voilà, les sports qui sont dominés par les éliminatoires du Mondial de 2018 et la Côte d'Ivoire, le Mali ouvre les hostilités.
Effectivement, Eric, coup d'envoi tout à l'heure à 19h, temps universel au stade du 26 mars à Bamako. Les éléphants forts de 7 points n'ont qu'une seule unité d'avance sur le Maroc qui joue contre le Gabon demain samedi.
Oui, et nous avons ce duel à distance entre la Tunisie et la RDC.
Avantage pour les Aigles de Carthage qui se déplacent à Conakry avec 10 points. Les Léopards jouissent de 7 points et affrontent les Chevaliers de la Méditerranée sur le sol tunisien. Mission périlleuse pour la RDC. Une défaite des Léopards combinée à une victoire des Aigles qualifierait la Tunisie. Le sélectionneur de la RDC, Florent Ibengue, le fait savoir.
Il faut qu'on gagne. On n'a pas d'alternative. On va jouer un peu comme on a joué contre la Tunisie à domicile. La possession de balle et changement de rythme. Et en espérant ne pas flancher pendant les 15 dernières minutes. Ils ont des joueurs qui vont très vite. Quoi qu'il arrive, il faut que le mental soit vraiment supérieur à tout ça. On a peut-être une toute petite chance, mais on n'a pas le droit de la laisser passer.
Florent Ibengue au micro de Thierry Kambounzi.
Et dans le groupe D, Yacouba, la bataille se poursuit après des envolées juridiques à la FIFA.
Tout à fait, Eric. La décision de faire jouer le match Afrique du Sud-Sénégal donne un joker au Lion de la Teranga. Le Sénégal joue un match piège demain, samedi, à Praia face au Requin Bleu du Cap-Vert. Le Burkina devra battre les Bafana Bafana Johannesburg tout en misant sur une défaite du Sénégal pour entretenir l'espoir. L'attaquant des étalons, Aristide Bansé, y croit toujours.
Quand les moments sont plus difficiles, c'est là qu'on voit les étalons. On est motivé. On sait que notre qualification peut partir d'ici. Depuis la première journée jusqu'à maintenant, je pense qu'on est toujours resté en tête. Voilà, nous, on s'est dit que, bon, ils ont dit le match est à rejouer, mais n'ont pas dit que le Sénégal a gagné. Donc, je pense que c'est ce qui est le plus important. Voilà, nous, on va faire notre boulot ici. Le reste, maintenant, on verra.
Aristide Bansé, au micro de Zoumana Onogo pour VOA Afrique.
Oui, c'est le pays des hommes intègres. Le Nigeria pourrait arracher sa qualification dès demain.
Oui, Eric, les Sapeurs Huguels contre les Chipolopolo de la Zambie, crédités déjà de 10 points, une victoire du Nigeria serait synonyme de qualification. Cette affiche rend anecdotique le duel Cameroun-Algérie, Lyon indomptable et Fennec étant déjà éliminé.
Oui, et le Ghana qui joue son tout va tout à Kampala, qui risque de perdre donc cette qualification. Merci, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manilakiza, pour aborder la seconde partie de cette édition et les dossiers du jour. Le Niger observe un deuil national de 3 jours après la mort mercredi dans une embuscade de 3 membres des forces spéciales américaines et 4 soldats nigériens près de la frontière avec le Mali. C'est la première fois que la présence de soldats américains est signalée dans la zone. Devenu très instable en raison de nombreuses attaques meurtrières attribuées à des groupes djihadistes. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Stéphanie Pézard du think tank américain RAND Corporation.
C'est un peu la première fois que la présence des États-Unis sur le terrain au Niger est perçue par les Américains de façon aussi claire. Je crois qu'il y avait une connaissance de l'investissement des États-Unis aux côtés de la France, aux côtés de l'ONU dans la région, mais cet investissement était peut-être vu de façon un peu plus théorique et plus lointain. Là, avec ces décès, cette tragédie, je crois qu'il y a une compréhension beaucoup plus claire vraiment de l'implication américaine et des enjeux pour les États-Unis.
Justement, quels sont ces enjeux?
Je pense qu'il y a une compréhension du risque que représente la stabilité régionale ces différents groupes qui opèrent dans la région, principalement à partir du Mali, mais qui maintenant opèrent vraiment également au Niger, également au Burkina Faso. Évidemment, il y a aussi toujours la crainte d'une connexion avec Boko Haram un peu plus au sud, au Nigeria, mais également au Niger. Donc tous ces groupes extrémistes, en fait, qui opèrent dans toute la région, qui traversent facilement toutes les frontières, qui attaquent les armées de ces différents pays, mais également les civils, également les étrangers, posent un problème de sécurité auquel les États-Unis, je pense, sont sensibles, même si ce n'est pas une région d'une grande priorité stratégique pour eux. Ils ont quand même un intérêt à ce que ces groupes soient éliminés ou en tout cas contrôlés et ne déstabilisent pas encore davantage la région.
Le président nigérien a récemment appelé la communauté internationale à se mobiliser pour doter la force du G5 Sahel, des moyens d'accomplir sa mission. Pensez-vous que les États-Unis peuvent être d'un grand apport à cette force antiterroriste?
Ils peuvent clairement donner un apport financier qui actuellement est clairement nécessaire pour que cette force puisse accomplir les objectifs qu'elle s'est fixés. Là, on est encore très en dessous des objectifs financiers et les États-Unis, s'il y avait une volonté politique, pourraient de toute évidence contribuer à cela et permettre à cette force de vraiment démarrer. Est-ce qu'il y aura une volonté politique? C'est une autre question. On voit dans différentes régions qu'il y a plutôt une tendance actuelle à un retrait plutôt qu'une augmentation du nombre d'interventions des États-Unis. Les discussions en cours quant au financement par les États-Unis de l'ONU par exemple, plus généralement l'institution d'organisation internationale, laisse supposer que ce n'est peut-être pas le bon moment et les bonnes circonstances pour attendre un investissement financier plus important de la part des États-Unis. Cela étant dit, peut-être que les pertes humaines de ces derniers jours vont attirer l'attention sur cette région et peut-être amener un peu cette question un peu plus haut dans le débat.
Stéphanie Pézard de la RAND Corporation à Washington DC.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
RDC, 33 militants du mouvement Lucha, lutte pour le changement, ont été libérés dans la nuit du 3 octobre par le parquet de grande instance de Goma, sans les avoir inculpés. Ces militants avaient été arrêtés dans l'est de la RDC pour avoir réclamé la convocation de la présidentielle en vue d'élire le successeur du président Joseph Kabila, qui se maintient au pouvoir. Solange Nyamulisa, adjointe à Goma, Ghislain Mouhiwa, un membre de la Lucha.
Ils ont été reprochés d'avoir manifesté sans autorisation, alors que nous sommes dans des régimes de formation. La Lucha avait déposé une lettre officielle pour informer l'autorité qu'il y aura une manifestation pacifique qui sera organisée pour exiger à la CENI de convoquer l'électorat pour les élections présidentielles. Parce qu'il faut qu'avant 90 jours que les délais arrivent, la CENI doit normalement convoquer l'électorat pour les élections présidentielles. C'est comme ça que lorsque nous étions dans une manifestation pacifique, jusqu'au bureau de la CENI, 33 militants de la Lucha et d'autres organisations avaient été arrêtés pendant cette manifestation et ils ont été libérés les mardis de cette semaine.
Sur quelle base ils ont été libérés?
Selon le parquet près du tribunal de paix de Goma, ils ont été relaxés purement et simplement parce que le chef du parquet a estimé qu'il n'y avait pas de sanctions. Il a été découvert également que les maires de la ville avaient donné une lettre au parquet disant qu'il a interdit la marche et que cela devrait amener à ce qu'il soit reproché des rébellions et des provocations à la désobéissance aux lois. Alors que ce n'était pas vrai, c'était faux, parce que le maire de la ville n'a pas ce pouvoir d'interdire une manifestation. C'est comme ça qu'ils ont été libérés purement et simplement sans accusation, sans effraction et sa poursuite judiciaire.
La CENI a dit qu'en raison des violences dans le Kasaï, les élections ne pourront pas avoir lieu d'ici la fin de l'année. Quelle est votre réaction?
Encore une fois, une provocation à l'égard de la population parce que le retard du fait qu'il n'y a pas eu l'enrôlement au niveau du Kasaï a été causé par les sécurités et le gouvernement est responsable de garantir la sécurité sur toute l'étendue de la République. Et pour nous, la CENI doit tout faire pour finir l'enrôlement au Kasaï avant la fin du mois de novembre, afin d'organiser les élections présidentielles, parce que nous croyons que s'il y a la volonté, on peut tout mobiliser et aider à sorte qu'il y ait des élections avant la fin de cette année. S'il n'y a pas des élections, alors nous allons tout faire pour organiser des grandes manifestations afin de chasser le pouvoir de Kabila, parce que nous avons vu qu'il n'y a pas de volonté au niveau du régime actuel et que nous devons tout faire maintenant, non pour exiger les élections, mais désormais pour exiger son départ, parce qu'on a compris qu'il y a une mauvaise volonté de la part du président Joseph Kabila.
Ghislain Mouhiwa, membre de la Lucha, lutte pour le changement à Goma.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Forte affluence des ressortissants de la RDC dans les quartiers sud de Bangui en Centrafrique inquiète de cet afflux. La police a lancé aujourd'hui une vaste opération de contrôle dans la capitale. Près d'une centaine d'étrangers en situation irrégulière ont été arrêtés aujourd'hui. Le reportage est signé Freeman Sipila.
Au total, 90 ressortissants étrangers, pour la plupart des Congolais de la République démocratique du Congo, sont tombés dans les filets des forces de sécurité intérieure au premier jour de cette opération. Selon les autorités, entre janvier et septembre 2017, plus de 5000 Congolais de la RDC sont entrés illégalement sur le territoire centrafricain. L'opération vise donc à maîtriser le flux migratoire. Jean-Claude Zoubanda, chargé de mission au ministère de la Sécurité publique.
Ce sont plus les Congolais démocratiques qui sont là. Il y a eu de janvier jusqu'à nos jours plus de 5000 entrées et que nous avons constaté que moins de 2000 sorties. Alors il est de notre devoir de savoir qui est sur le territoire et au besoin il faut se conformer à la législation centrafricaine. Au fur et à mesure nous avons examiné leur cas. Ceux qui sont en situation irrégulière, c'est-à-dire séjour irrégulier, certainement ils seront reconduits à la frontière. Et ceux qui pensent être avec nous, car nous sommes toujours hospitaliers, et ils vont régler la situation administrative au niveau de l'immigration et ils seront là.
Depuis presque deux années, on note une présence massive des ressortissants de la République démocratique du Congo dans les secteurs sud de Bangui et dans les villages longeant le fleuve Oubangui, ligne frontalière entre la République centrafricaine et son voisin congolais. Dans le quartier Pétain 1, le chef Sylvain Ondrazoyen en a déjà répertorié plusieurs centaines.
Dans mon quartier, leur nombre a augmenté. Par exemple, en 2014, ils étaient 182. Et cette année, en 2017, après un recensement que j'ai organisé, ils sont 354. Donc on retrouve 8 à 10 personnes, voire plus dans une maison.
Cet afflux non seulement des Congolais, mais aussi des Nigérians, Camerounais et Rwandais inquiète les centrafricains, encore à l'esprit l'image des atrocités commises par des mercenaires étrangers durant la crise.
Nous avons constaté qu'au travers de l'histoire de notre pays, la crise qu'on a endurée, la présence des étrangers fait partie des raisons de tout ce que nous avions connu comme cataclysme sécuritaire.
Nous aimons bien que les étrangers viennent chez nous, mais il faudrait que les lois et les règlements applicables sur le territoire centrafricain par rapport à l'entrée et la sortie des étrangers soient respectés.
Nous voyons que vraiment, ça c'est ce qui peut accentuer beaucoup plus l'insécurité et nous connaissons pas l'identité de ces gens-là qui viennent. Et peut-être ils sont en train d'être traqués quelque part et puis fuient pour s'installer sur notre territoire. Ça c'est un danger.
Ces entrées illégales sont même déplorées par certains étrangers qui vivent depuis plusieurs années sur le territoire centrafricain. Ce ressortissant congolais de la RDC en situation régulière a déjà passé 28 ans à Bangui.
J'ai fait presque 28 ans ici à NRCA. Je suis venu avec une bonne condition. Tous les chefs de quartier me connaissent. J'ai fait presque 3 impôts pour 3 ans. J'ai vécu sous contrôle administratif. Là où je suis, les chefs de quartier me connaissent avec toute ma famille.
Qu'est-ce qui favorise l'entrée illégale massive des ressortissants étrangers en Centrafrique? Selon les autorités, la crise qui a secoué le pays n'a pas permis la sécurisation des frontières. À en croire certaines sources, ce phénomène est dû en partie à la corruption. Les forces de l'ordre, au lieu de faire leur travail, se livrent plutôt aux raquettes. Fumansi Pila Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
À Las Vegas, dans le Nevada, la semaine prend fin sur une note positive après avoir commencé par un cauchemar lorsqu'un homme perché au 32e étage d'un hôtel a tiré sur 22 000 personnes assistant à un concert. Vous connaissez le bilan, il est lourd, 5 à 9 morts et plus de 500 blessés. La note positive aujourd'hui, c'est le désir des habitants de ne pas se laisser vaincre par la peur et l'amertume. Le récit de Gabi Dorsil.
À environ 15 minutes de la scène du carnage, un jardin spécial aura pour but d'aider les survivants et la ville dans le processus de guérison. Une plante pour chacune des victimes. En une journée, ce jardin s'est développé grâce aux dons multiples et à la participation active de plusieurs volontaires. Je fais mon possible pour les aider, car ces vies ont du prix à mes yeux, dit Jeff Peterman. C'est ça, la motivation, rien que de l'amour. Pour Alexander Zoransky, travailler ici est un moyen d'oublier les horreurs de la nuit du 1er octobre. Je ne faisais qu'aider les autres à ne pas se faire piétiner. Le souvenir de cette tragédie est encore vif. Par exemple, l'appel à ses parents après avoir emmené les premières victimes à l'hôpital.
Hey, I'm alive.
Bon, je suis vivant et j'ai pu venir en aide à beaucoup de personnes qui n'ont pas été aussi chanceuses que moi. Et aussi à mes amis. Parmi ceux préposés aux soins de cet espace, on entendait ce dicton « Celui qui plante un arbre plante de l'espoir ». L'arbre de la vie est la pièce maîtresse de ce jardin. Une journaliste de la VOA a observé comment les visiteurs peuvent concevoir une tuile en céramique formant une mosaïque en forme de cœur, afin que chacun aide à reconstituer le cœur de Las Vegas. Et ses habitants de la zone ne sont pas les seuls à prendre part au processus de guérison de la ville. Le restaurant mexicain Nacho Daddy est connu pour ses coups de scorpion, un véritable scorpion dans un coup de tequila. Mais maintenant, il est célèbre pour la livraison de 1000 repas gratuits aux premiers intervenants depuis la tuerie de dimanche dernier. Celui qu'on écoute, c'est le président de Nacho Daddy, Paul Haimas, qui dit « Nous faisons des livraisons pour leur apporter de la nourriture. » Et à part ça, les premiers intervenants leur ont dit « Si vous avez faim, prenez un répit, entrez ici et nous allons vous nourrir et votre famille. » Et cela s'est développé comme ça. Jeudi, la police a remis les corps recouvrés sur la scène du crime à leur famille. Maintenant, les proches sont confrontés à un autre fardeau, la planification d'un enterrement. Le directeur des pompes funèbres, Ryan Bowen, fait un don de service d'incinération gratuit. Il a également créé une page GoFundMe recueillant des fonds que les familles des victimes peuvent utiliser dans n'importe quelle maison funéraire.
Oh,
These are my people. I mean, this is my town.
Oh, ce sont mes gens, dit-il. Je veux dire, c'est ma ville. Cette tragédie a... Tu sais quoi? Je ne veux pas l'appeler une tragédie. Je veux l'appeler un crime, parce que c'est exactement ce que c'était. Ce crime a touché chaque personne dans cette ville.
Et c'est la fin de cette édition. Sims Lumami a assuré la mise en onde. Suleiman Traoré à la console. Talawale. Présentation Eric Manilakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Profitez de votre vie et vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. On reste en contact sur Facebook.